histoire.
Les grands portraits.
Franck Ferrand.
Nous sommes à Nice, un certain jour de novembre 1965, rue d'Angleterre. Une vieille dame entre chez le traiteur, elle vient chercher son quart de poulet à la mayonnaise, plutôt elle vient le commander pour le lendemain, vous savez, alors le traiteur lui dit « Oui, à quel nom, madame ?»« Otero, » dit-elle. « Ah ah oui, » dit le traiteur, « Otero comme la belle !»« Peut-être, » répond la vieille dame. Et effectivement, c'est pas peut-être, c'est sûrement, car cette vieille dame est bel et bien, en chair et en os, la plus célèbre des courtisanes de la belle époque. Le traiteur était bien loin de s'en douter, évidemment, tant de décennies avaient passé depuis. Cette courtisane, cette gourgandine, comme on disait à l'époque, dont la piété naïve était restée assez vive pour qu'on la vit adresser ses vieilles robes aux paroisses de Galice pour qu'elles en ornent les saintes vierges, cette dame était un mystère à part entière. Alors, pourquoi la Galice? Eh bien, ça nous ramène aux origines de celle qu'on appellera bientôt ou un jour la belle Otero. On la disait grecque ou andalouse. En vérité, elle était galicienne, originaire d'un petit village pas très loin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Le village s'appelle Valga. Elle serait née, elle est même très sans doute née, en 1868. Sa mère, Carmen Otero Iglesias, n'était née que 22 ans plus tôt. Elle était elle-même la plus jeune fille d'un certain Isidore, que tout le monde appelait Sidro, qui était un ancien gendarme municipal, qui était reconverti, j'allais dire, dans la boisson. En tout cas, il était devenu tavernier. Il est mort jeune. Il a laissé une veuve avec 5 filles, toutes très belles, dont la fameuse Carmen. De quoi vit Carmen, d'après vous? Disons que c'est une femme de petite vertu. Alors pour ce qui est du père, c'est encore plus mystérieux. Vaste question que celle du père d'Augusta. Ramón del Valle Inclán, le grand dramaturge, vous savez, l'auteur de ce genre qu'on appelle Esperpento en Espagne, nous dit que le père était cantonnier. D'autres disent qu'il était plutôt cordonnier. En tout cas, certains ont même prétendu qu'il était un ancêtre du général Franco, du reste. On a prétendu à peu près tout et n'importe quoi. Nestor Luran nous propose une autre solution. Elle était la fille d'un curé, nous dit-il. Et c'est vrai qu'un prêtre qui s'appelait Carradan, et qu'on surnommait le Boiteux, vivait à cette époque à environ une centaine de mètres de chez Carmen. Oh, c'était un personnage, un carliste bon teint, un curé tel qu'on peut en trouver en Espagne. Bref, il y a eu énormément de candidats à la paternité d'Augusta, souvent de bonne foi, du reste. Dans son acte de décès, qui donc est datée de 1965, on nous dit qu'elle est née à Cadix d'Augustin José Otero et de Carmen Iglesias. Tout ça n'est qu'une pure invention, parce qu'en vérité, elle ne supportait pas d'être la fille d'une fille mère, c'est même une sorte de complexe qui va la poursuivre pendant toute sa vie. Dans ses mémoires, elle dira qu'elle avait un père qu'elle adorait, un grec nommé Carasson. Vous voyez que ça rappelle quand même le fameux Carradan, hein, le nom du fameux curé. Donc vous voyez que tout ça est quand même bien flou. Elle ne savait même pas exactement le jour de sa naissance. En fait, elle est née probablement un 19 décembre, puisqu'elle a été baptisée le 20 décembre 1868. Alors, Augusta, qu'on appelle très vite Augustina, et qui dans la famille est Tina, n'est pas très bonne à l'école, hein, disons-le. Elle est très dissipée, elle est d'un naturel très vivant, très joyeux, cette petite fille. Mais alors, dans le système scolaire de l'époque, où l'on demande beaucoup de sagesse, il faut que les enfants soient très appliqués, très calmes, alors là, ça lui convient pas du tout. Elle est douée pour une chose, c'est la danse. Et elle danse, mais alors toute petite, elle danse mieux que quiconque. Elle se met tôt à danser le carrascal avec sa meilleure amie, Gina. Donc il y a Tina et Gina, qui se fait surnommer la petite truite. Tous les jours, Tina passe en allant à l'école devant chez un cordonnier. Elle fait bonjour, comme ça, il s'appelle Venancio Romero. C'est un savetier, il a 25 ans. Et un jour de fête villageoise, on est là le 11 août 1879, la petite a donc 11 ans et demi. Eh bien, il va être vraiment très gentil, le Venancio. Il va même carrément lui sauter dessus et il va la violer. Voilà ce qu'elle écrira dans ses mémoires. « Tous ceux qui ont eu une enfance douloureuse comprendront combien j'ai pu souffrir. Les peines des enfants pénètrent au plus profond. Leurs peines sont plus complètes, plus dépourvues d'horizon. Ils ne peuvent pas entrevoir d'où pourrait provenir un jour la consolation à leurs maux. C'est un choc terrible qu'a subi évidemment cette petite fille, dont elle ne se départira somme toute jamais, ça le poursuivra. Hein. Elle a 11 ans et demi, elle va vivre 97 ans, vous voyez que ça va faire quelques décennies, à vivre avec ce mal intime qui la mine depuis ce viol, depuis ce moment absolument terrible. Deux médecins ont établi un rapport, la petite fille délirait complètement. Quant au criminel, au violeur, il s'est échappé, il a pris le bateau pour l'Argentine, et maintenant il va falloir que Tina vive avec cela. Elle est, dit-elle, ce sont les termes qu'elle employait elle-même, elle disait « j'ai été salie pour toujours ». Et elle va fuir, Tina, elle va peut-être fuir pendant toute sa vie d'une certaine manière. Il faut peut-être trouver dans ce moment fondateur, dans ce crime terrible, l'origine de cette espèce de vie d'errance qu'elle va mener. Alors elle fuit d'abord physiquement, sans doute la nuit, car personne ne se souviendra de l'avoir vue quitter Valga. On est là au début de 1880, elle a sans doute suivi des forains portugais. On est à l'époque des exploiteurs d'enfants, vous savez, on fait faire aux enfants toutes sortes de tours, etc. pour attirer le chaland, bien entendu. À 13 ans, vous imaginez ça, à 13 ans, elle connaît son premier amant de plein gré, si je puis dire. Il s'appelle Paco, lui a 15 ans, c'est un petit danseur. Bon, il s'amuse assez bien, le petit Paco avec la petite Tina. Elle tombe malade, un médecin va dénoncer sa situation à la police, puisque c'est une enfant fugitive qui traîne comme ça dans les, vous savez, dans les roulottes de forains. On la reconduit chez sa mère. Alors, ça se passe extrêmement mal, bien entendu. Elle est chassée de chez elle, elle se retrouve de nouveau à la rue, elle va retrouver Paco à Lisbonne, et ça c'est une période très sordide de sa vie, parce que on la voit passer d'un lupanar à l'autre. Ce Paco, il a beau n'avoir que 16 ans, est un vrai petit proxénète. Il la met enceinte, il faut évidemment la faire avorter, alors on va chez les avorteuses, vous savez, j'ai ces espèces de guérisseuses. Du coup, elle en sera stérile toute sa vie, et l'on peut dire que ce sera le grand tabou de sa vie, ou peut-être, disons maintenant, le deuxième des tabous de celle qu'on appellera un jour la belle Otero.
Franck Ferrand,
les grands portraits,
14h-15h sur Europe 1.
Au cœur de la belle époque cet après-midi avec vous, Franck Ferrand, vous nous racontez le destin de la danseuse et chanteuse de cabaret, la belle Otero.
Et oui, et joueuse, vous allez voir jusqu'où. On est à l'été 1882, elle n'a donc même pas encore 14 ans, et la voilà à Barcelone, elle a quitté Paco. Et revoilà Paco, sauf que c'est pas le même. La confidence telle qu'elle nous est livrée par Otero elle-même en 1904 à un journaliste de Pittsburgh en Pennsylvanie, voilà ce qu'elle dit. « Un jour, à Barcelone, un garçon catalan, prénommé Paco, me trouva en pleurs dans la cuisine d'un lupanar où je m'étais réfugié la veille au soir, fuyant le froid et la pluie. Lui aussi était pauvre, mais moins que moi, et il m'a donné à manger. » J'échangeai mes haillons contre des vêtements propres et il me laissa partager son lit. Les 3 années qui suivirent, Paco me protégea, s'occupa de moi, m'apprit à chanter, à danser. Il fut mon amant. Ça, on l'avait compris. Et elle ajoute, c'est peut-être le journaliste qui a cru bon de préciser. C'était la première fois en 2 ans que je savais enfin ce que c'était que de dormir une nuit entière. Vous vous rendez compte? La première fois aussi que je savais qu'en me réveillant le matin, j'aurais quelque chose à manger. Alors Paco tomba amoureux de moi et gâcha tout. Ah oui, ça va être la grande affaire de sa vie, évidemment, tous ces hommes qui tombent amoureux et qui gâchent tout. Paco, en fait, s'appelait Francesco Coileon. Il était croupier au cercle des chasseurs. C'est vrai qu'il a appris, enfin, il a poussé, en tout cas, Otero à chanter, à danser, notamment dans un cabaret des faubourgs de Barcelone. Disons-le clairement, lui aussi est un proxénète, mais, si je puis dire, c'est un gentil proxénète, avec de grands guillemets, parce que lorsqu'elle tombe malade de la typhoïde, on le voit s'occuper d'elle, nuit et jour, il est là constamment à son chevet. Vous avouerez que c'est contraire à toutes les règles. Lorsqu'on a un homme, comme on disait à l'époque, évidemment, il n'est pas là pour vous materner et pour jouer les infirmières. D'où la tendresse de Tina pour ce jeune homme. Phénomène étrange, dans ses mémoires, elle va mêler les deux Paco, donc le petit gamin qui lui avait fait un enfant, le premier, et puis celui-ci, elle va les mêler en un seul, et elle fera de ces deux épisodes clés de sa jeunesse une seule et même aventure. C'est très intéressant, vous savez, ces mémoires de grandes aventurières qui sont en vérité de véritables nids de chausse-trappes. On ne sait jamais ce qu'il faut croire et ce qui est inventé. Alors, elle va se rendre à Barcelone en 88-89. Quand je dis elle va se rendre, elle y est arrivée, en fait. C'est la ville des prodiges. On est prêt à installer la fameuse exposition internationale de Barcelone. Or, guidée par Paco, Tina commence à se produire dans un certain nombre d'établissements où l'on voit une clientèle, comment dirait-on pour être poli, une clientèle assez mêlée, disons. Il y a là des ouvriers, des bourgeois, toutes sortes de personnes. Et c'est sur la scène, si tant est qu'on puisse parler d'une scène, c'est sur l'estrade de ce cabaret que Tina va imposer une espèce de danse sans code, sans normes, une danse nouvelle et qui n'appartient qu'à elle, ultra sensuelle et qui va faire les beaux soirs de la Buena Sombra, c'est le nom du music hall, qui est aussi une maison de jeu du reste. Alors après son numéro, elle descend entraîner le public, ça lui fait peur, ça ne lui est pas naturel du tout, il faut... Vous pouvez comprendre, puisque vous connaissez un peu maintenant son enfance, vous pouvez comprendre quelles sont les origines de cette espèce de frayeur qu'elle ressent dès qu'elle doit affronter la foule et les inconnus. Elle est un peu sauvage, elle est très timide. Paco, de son côté, joue beaucoup, ce qui veut dire qu'il lui faut toujours plus d'argent. Il y a là un lien avec le jeu, un lien qui ne quittera plus du reste la belle Otero, puisque elle sera donc tôt versée, elle a 20 ans en 1888, elle est tôt versée dans cet univers du jeu. Il faut vous dire qu'à Barcelone, évidemment, on a une réunion de tout ce qui peut y avoir de plus brillant, mais aussi de plus riche et de plus dispendieux dans l'Europe de l'époque. Vous imaginez ce que sont ces petites tavernes à l'époque de l'exposition internationale. On mange des sardines avec des petits pains chauds, on boit du rhum de la Havane. Et celle qui désormais se fait appeler Caroline, car c'est son nom de scène, a un modèle, le seul modèle, on peut dire sans doute le modèle de toutes celles qui à l'époque mettent un pied sur les planches, c'est Sarah Bernhardt, bien entendu. Sarah Bernhardt dont les journaux de l'époque racontent toutes les frasques, les voyages extraordinaires, le succès invraisemblable. C'est une sorte d'obsession pour Tina devenue Caroline qui voudrait en quelque sorte être une Sarah Bernhardt à sa manière. Une Sarah Bernhardt aussi du point de vue de la séduction. Elle rencontre un certain nombre de riches visiteurs de l'exposition, notamment Monsieur Stevens, qui est très gentilhomme, et qui va la présenter au banquier Furtia, qui va être un peu en quelque sorte son Pygmalion. C'est lui qui va faire de Caroline, danseuse de cabaret, celle qu'on appellera bientôt Otero et qui deviendra une célébrité à l'échelle du continent.
Franck Ferrand.
Les grands portraits.
14h-15h sur Europe 1.
Et la belle Otero était l'une des courtisanes les plus en vue de la belle époque. Hein. Franck Ferrand, vous nous racontez la vie et le destin de cette chanteuse et danseuse mythique de cabaret.
Alors elle devient vraiment chanteuse et danseuse dans les mains de ce Pygmalion, de ce banquier Furtia qui la présente à un impresario, Florio. C'est lui qui va la faire sortir de l'espèce de petit cabaret où elle était pour la faire monter vraiment sur les planches. Par ailleurs, le banquier exige qu'elle se sépare du fameux Paco, vous savez. Alors vous imaginez la comédie de la jalousie. Entre parenthèses, le Paco en question, il finira Monsieur Pipi dans le métro de Londres. Mais ça deviendra dans les mémoires de la belle Otero un garçon de café à la Havane, voyez. Donc il faut... Tout est comme ça, un petit peu à double fond, bien entendu. Début 1889, la belle s'embarque avec son banquier pour Marseille. Le problème pour elle, elle a le mal de mer. C'est très important, ça a l'air d'être un petit détail que je vous livre, mais c'est exactement comme avoir aujourd'hui la phobie de l'avion. Ça veut dire que dans une époque où tous les voyages se font par voie maritime, si vous avez le mal de mer, vous êtes contraint de rester chez vous, si je puis dire. Et c'est une entrave considérable aux grandes carrières, etc. Donc, il débarque à Marseille. De Marseille, on se retrouve très vite à Monte-Carlo. C'est là que vous voulez aller, Furtia. Monte-Carlo, on est à la grande époque là, de l'explosion de Monte-Carlo avec ce casino qui est encore dans les mains des Blancs, en l'occurrence de Camille Blanc. Mais on fréquente aussi, parce que c'est quand même... C'est le demi-monde, si je puis dire, ce banquier. Donc on fréquente l'opéra, on rencontre des gens comme Massenet, comme Saint-Saëns, etc. La vérité, c'est que au-delà de l'opéra, c'est surtout aux tables de roulette qu'on retrouve le banquier, qui va se ruiner littéralement après avoir non pas initié Caroline, parce qu'elle était elle déjà une joueuse à l'époque, mais il lui a donné toutes sortes de trucs, de martingales. Il lui a sans doute surtout refilé le virus du jeu, si je puis dire. Il est grand temps pour lui, qui est complètement ruiné, qui a des dettes partout, de repartir pour Barcelone. Alors il va loger Caroline dans une petite pension où elle va connaître, ça y est, c'est de nouveau les idées ville d'un soir, n'est-ce pas? Un jour, elle rencontre un Espagnol bohème qui s'appelle Augusto Herrero, qui l'introduit au cercle des étrangers. Elle va travailler là dans un café-concert avec comme nom de scène Caroline Castagnette. Ah, on a l'impression que tout ça redescend d'un seul coup. Et puis, elle va là tourner la tête d'un jeune homme qui est grand, qui est mince, qui est blond. Ce jeune homme a une maîtresse qui s'appelle Felicia. Donc Felicia débarque au cabaret, c'est un esclandre terrible, etc. Les jeunes femmes se disputent tellement qu'elles finissent quand même à l'hôpital. Et le jeune homme blond vient rechercher Caroline. Il lui dit « Voilà, c'est vous que j'ai choisi, c'est avec vous que je veux vivre. » Mais elle ne veut pas vivre avec lui, elle le repousse. Il se suicide. Il ne sera que le premier d'une série. Vous savez qu'on a surnommé Otero la sirène des suicides. On va en reparler dans un instant avec Jean Descartes. Du coup, elle a très mauvaise réputation à Marseille. Elle ne peut même pas rester dans la grande capitale du Sud. Et la voilà partie pour la capitale du Nord, si je puis dire. Elle va arriver à Paris. On est en 1889. Mars 1889, on vient juste d'ouvrir l'exposition universelle. Et l'on peut presque dire que Caroline va être une des attractions de ce grand événement. Bonjour Jean Descartes.
Bonjour Franck.
Le moins qu'on puisse dire, c'est que les débuts de La Belle Otero auront été difficiles, pour ne pas dire même un peu sordides.
Comme ceux de beaucoup de ses, j'allais dire, comparses, et les mémoires sont effectivement des pièges. Comme dira beaucoup plus tard quelqu'un dans un genre différent à qui on demandait d'écrire ses mémoires, le maréchal Pétain, pourquoi voulez-vous que j'écrive mes mémoires, je n'ai rien à cacher.
Bon.
Alors, les mémoires d'Otero sont un piège, mais elle est la plus étonnante si on prend les femmes de l'époque, les lionnes, comme on dira aussi, Émilienne d'Alençon, Liane de Pougy, par exemple. Otero, c'est une carrière qui va en gros de 1889 à 1914, une carrière surtout de danseuse. De chanteuse, c'est déjà plus moyen quand elle essaye de chanter Carmen à l'Opéra Comique. Mais avec un sens du spectacle et entourée de promoteurs du spectacle, notamment à New York, où elle aura une arrivée de star, alors que le cinéma n'existe pas encore, on dira c'est une étoile qui est née, elle est spectaculaire. Et deuxième carrière, après la Première Guerre mondiale, dans le fond une carrière de joueuse, et là c'est très fort parce qu'elle dit « mais je n'ai connu que deux plaisirs dans la vie, gagner au jeu et perdre au jeu ». Ce qui prouve qu'elle est bien une vraie joueuse.
Ces deux carrières, nous y venons dans un instant, en votre compagnie, Jean Descartes.
Franck Ferrand.
Les grands portraits.
14h, 15h sur Europe 1.
Et c'est le soleil de l'Espagne qui brille sur Europe 1 cet après-midi. Franck Ferrand, vous nous racontez la vie et le destin de la courtisane de la belle époque, Caroline Otero, avec votre invité, l'écrivain, journaliste et historien, Jean Descartes, auteur du livre La saga des favorites, Paris aux éditions Perrin.
Et qui a écrit beaucoup plus récemment « Le sceptre et le sang, rois et reines dans la tourmente des deux guerres mondiales ». Vous étiez venu, Jean Descartes, nous en parler il y a quelque temps. Alors, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que nous parlons d'une héroïne de la Belle Époque. Et je précise à nos auditeurs que vous n'êtes pas du tout vous de la Belle Époque, mais que vous l'avez connue, Caroline Otero.
Oui, c'était dans les années 60. J'accompagnais mes parents à Nice. J'avais à peu près 16-17 ans, disons. Et papa, qui est le romancier Guy Descartes, qui était fasciné par toutes ces femmes extraordinaires et qui avait très bien connu Louis-Gabriel Pringuet, l'auteur de 30 ans d'Innerville, qui lui était un témoin d'Otero. Et il me dit tout d'un coup « Ah, regarde, c'est Otero !» Ça ne me disait rien. Il me dit « C'est un monument historique qui passe. » Et alors, vous voyez, une femme assez confortable, âgée.
Confortable, vous voulez dire bien en chair ?
Oui, un peu moins qu'elle ne l'avait été, mais enfin quand même confortable. Et ce qui a frappé papa et ce qui me frappe quand on parle de ce personnage, c'est la dignité et le courage. Il y avait un mélange, si vous voulez, de vulgarité, mais avec de l'allure, si je puis dire. C'était très étrange, cette femme dont les journalistes américains disaient « elle n'entre pas en scène, elle entre en transe ». C'était un spectacle. Et qui avait sciemment, poussé par le démon du jeu qu'elle ne repoussait pas, si je puis dire, tout perdu. Parce que, en gros, après 1918, les temps ont changé, le monde n'est plus aussi frivole comme il l'était avant, ce sera d'autres frivolités, les années folles, bien sûr. Les empereurs et les rois qui étaient ses amants ont disparu, qui étaient ses financiers. Enfin, il y avait déjà 5 hommes qui s'étaient tués pour elle, et on avait beaucoup de duels. Elle avait fait des débuts fantastiques sous le patronat du fondateur du Moulin Rouge.
Alors on reviendra, hein, oui, à
voilà.
Tout ça. Oui.
Bon, c'est important. Et après la Première Guerre mondiale, Elle a énormément d'argent, mais enfin, c'était le genre à dilapider 700 000 francs or en moins de 15 jours. Bon. Et elle devient une pensionnaire, si je puis dire, du casino de Monte-Carlo. Elle rejoint les salons tapis verts après avoir posé la main sur la jambe du cheval qui se trouve dans le hall de l'hôtel de Paris, le cheval de Louis XIV, pour porter chance aux joueurs. Et elle éprouve, tous les témoignages le rappellent, autant de plaisir à perdre qu'à gagner. Et elle va progressivement perdre. Mais des choses hallucinantes, non seulement des fortunes, des titres, $1 million en emprunt russe, qu'elle avait complètement oublié, qui ne valait plus rien après 1918, évidemment. Une île dans le Pacifique, des maisons, des appartements, et elle finit, à l'époque où je l'ai rencontrée, dans un petit studio modeste de la rue d'Angleterre, sans se plaindre, et avec une dignité et un courage extraordinaire. Et je voudrais vous dire tout de suite quelque chose de très émouvant. 24 heures avant sa mort, chez le petit traiteur où elle allait chercher son frugal repas, elle dit à la vendeuse, « Ah, ce soir, deux portions. Nous serons deux. » Alors, comme on savait qu'elle vivait seule pour toutes sortes de raisons, très bien. Et c'était faux. Et c'est le soir, si je puis dire, où la mort s'est invitée chez elle.
La deuxième portion était pour la mort.
Et c'est assez fascinant. Et quand elle est morte, ses obsèques qui ont été suivies par peu de gens, peut-être son fils adoptif, un garçon d'une quarantaine d'années, mais c'est encore un mystère, les principales couronnes, les fleurs étaient envoyées par les casinos de Monte-Carlo, qui avaient versé, et de Nice, qui avaient versé depuis les années 50, il y a une très belle lettre d'elle, une pension à cette femme qui avait attiré tellement de monde autour des tables de jeu, parce que on venait la voir jouer, c'était un spectacle, qu'elle gagne ou qu'elle perde, c'était la femme pour qui le Kaiser Guillaume II s'était enflammé, à qui Édouard VII envoyait des cartons avec une pendule qui indiquait l'heure de leur rendez-vous, qui avait fait une arrivée à New York sur une carrière totalement une imposture, enfin qui n'existait pas, et qui avait fasciné même Colette, qui avait essayé de la séduire, n'est-ce pas, et qui s'était battue avec Émilienne d'Alençon, mais qui avait porté les plus beaux bijoux appartenant à Marie-Antoinette, disait-on, à l'impératrice Eugénie, à une autre courtisane, qui était un spectacle ambulant, une femme, je dirais, courageuse dans une sorte de misère qu'elle avait transformée en roman. Et c'est assez fascinant parce que par sa traversée du siècle pratiquement et deux guerres mondiales, qu'elle ait survécu comme témoignage sans se plaindre, ça c'était une leçon d'éducation au milieu d'énormes montagnes de vulgarité.
On raconte une anecdote sur une des entrées d'Otero au casino de Monte Carlo. On est là en janvier 1897 et tout le monde sait que à Monte Carlo réside à ce moment-là, d'un côté Caroline Otero et de l'autre la célèbre Liane de Pougy, c'est-à-dire les deux grandes courtisanes de l'époque. Alors, Caroline Otero fait son entrée au casino à 10h du soir et elle est littéralement, quasiment au sens propre, couverte d'émeraudes. On a cousu des émeraudes sur sa robe, elle a une parure absolument extravagante, elle en a plein les cheveux, elle en a même aux boucles de ses souliers. Enfin, elle est une espèce d'émeraude ambulante, si je puis dire, et tout le monde dit « Oh, oh, mais comment va bien pouvoir être Liane de Pougy pour faire mieux, pour être plus éclatante et plus étonnante ?» Et l'on voit arriver une heure et demie plus tard, Liane de Pougy, quasiment sans parure, elle porte juste une robe de mousseline blanche et son seul ornement, c'est un ruban rose à la ceinture. Tout est dit d'une certaine manière entre ces deux tempéraments, Jean Descartes.
Oui, Liane de Pougy va finir par reconnaître qu'Otero est beaucoup plus forte dans ses entrées en disant, ce que je trouve absolument superbe, quand Otero porte de faux bijoux, ils ont l'air vrais. Et ça, c'est un hommage.
Un anoblissement.
Oui, un anoblissement.
Manière. Alors, revenons 75 ans avant la rencontre que vous avez pu faire à Nice, à l'époque où, dans le contexte effervescent de l'exposition universelle de 1900, elle fait ses véritables débuts au théâtre et sur des scènes parisiennes. Elle rencontre tout de suite les bons impresarios, c'est Holler notamment.
Hein, oui, alors Holler c'est quand même le fondateur et le propriétaire du Moulin Rouge, mais il ne la fait pas débuter tout de suite au Moulin Rouge, il va la faire travailler au Cirque d'été, dont il subsiste la rue du Cirque, et qui lui est en contact avec des impresarios, des producteurs, je dirais, américains de New York, et qui va fabriquer une légende fantastique et qui l'expédie sur un paquebot où elle a, vous le rappelez, le mal de mer, mais elle arrive à New York Et c'est la première fois qu'on a un accueil pareil, parce qu'il a fait la salle, il a chauffé la presse. On peut raconter un peu n'importe quoi à l'époque. Hein. Elle arrive d'Espagne, il y a des fleurs rouges et jaunes, les couleurs nationales espagnoles. Elle va être plus une attraction foraine qu'une artiste. Et tout
un
le
phénomène.
Monde, voilà, un phénomène. Et tout le monde veut la voir, veut, pour les hommes, coucher avec elle, dont un des milliardaires américains Vanderbilt, qui va abandonner femme et enfant, qui finira par se suicider. Et elle a donc une réputation absolument stupéfiante, tragique et belle à la fois. Elle importe un parfum sulfureux de l'Europe à New York, où on avait vu beaucoup de choses, mais on n'avait pas vu ça. Et c'est intéressant parce qu'il y a des gens du spectacle qui vont vraiment la prendre en main, la faire travailler, cultiver ses apparitions spectaculaires. Alors, avait-elle vraiment un talent ? C'est la bonne question. Pas sûr. Sur le plan de sa voix, quand elle a essayé de chanter Carmen, on a dit, même si c'est son répertoire, j'allais dire, quasiment génétique par son origine, même si sa mère aussi est un personnage sulfureux, c'est un peu juste, mais elle dansait, elle avait un tempérament et tout le monde l'a remarqué, quoi. C'était un spectacle, c'était une réussite.
Une grande femme brune, ondulante comme un serpent qui semble douée, les yeux flamboient et la bouche appétissante comme une grenade, met en relief un profil qui pouvait prétendre à être aristocratique, nous dit la presse de 1890. Donc, dès ses débuts, en tant que belle Otero, car c'est le nom qu'Olaire a trouvé pour remplacer Caroline Castagnette, c'est pas plus mal, effectivement. Et alors le journaliste dit, elle fait le tour de la piste en distribuant œillades et sourires. Oh, quelle démarche, quelle démarche, quelle merveilleuse démarche, tout est là.
Oui, oui, elle savait faire ses entrées, ça je crois que c'est très très important. D'autant plus que les accessoires et bijoux qu'elle se fait prêter, par exemple, le Figaro compte un jour qu'elle a au moins 150 carats sur sa poitrine. C'est tout de même pas rien. Maintenant, il faut bien dire qu'elle est spectaculaire pour tout le monde. Même les femmes sont stupéfaites. Par exemple, La Vie parisienne écrit, on avait vu bien des choses à Paris, mais il fallait qu'elle vienne pour qu'on vit celle-là. Une femme aux yeux d'Andalouse. Bon. Pas tout à fait. Aux lèvres rouge sang, aux magnifiques cheveux ondulés bleu corbeau, qui se cabre et rejette la tête comme un pur sang. Lorsqu'elle a fini de danser, les planches scintillent encore, comme si on avait pulvérisé un lustre de cristal. Et Oscar Wilde songe consacrer une œuvre à ce personnage extravagant qu'il aurait appelé la sainte courtisane couverte de bijoux. Donc c'est quelque chose... Il s'agit de faire une entrée, elle ne va jamais les rater. Et ça, je pense que c'était un spectacle par rapport à Liane de Pougy, à Émilie d'Alençon, etc. C'est formidable.
Alors ça, c'est la partie visible sur la scène. Il y a la partie moins visible, évidemment, dans les alcôves. Oui. Et ce qui est inouï, c'est qu'à cette époque-là, ces dames sont très, très, très habillées, harnachées. Je vous livre le fameux extrait d'une lettre de Jean Cocteau qui dit « J'ai vu, moi, qui vous parle, Otero et Cavalieri déjeuner à Hermenonville. Ce n'était point une petite affaire. Armure, écu, carcan, gaine, baleine, gaz, épaulière, jambière, cuissard, gantelet, corselet, licou de perles, bouclier de plumes, baudrier de satin, de velours et de gemmes, cotte de maille, ces chevaliers hérissés de tulle, de rayons et de cils, ces scarabées sacrés armés de pinces à asperges, ces samouraïs de zibeline et d'hermine, ces cuirassiers du plaisir que harnachaient et caparaçonnaient dès l'aube de robustes soubrettes, semblaient raides en face de leur hôte, ne pouvoir sortir d'une huître que sa perle. Un monocle, des guêtres, des moustaches blanche, un grand âge et une grande fortune permettaient de prétendre à de tels vis-à-vis. L'idée de déshabiller une de ces dames était une entreprise coûteuse qu'il convenait de prévoir à l'avance comme un déménagement.
Ça, je dois dire qu'on comprend la réserve de Jean Cocteau à l'égard des femmes quand on voit. C'est absolument effrayant, c'est une forteresse. Mais si vous voulez, il y a dans la carrière d'Otero, il y a des gens très astucieux qui vont la mettre, si je puis dire, en couple avec des grandes vedettes dans ces endroits, par exemple où Mistinguett et Maurice Chevalier vont débuter. Passons les années, 21 octobre 1911, elle débute avec Dranem, l'immortel auteur d'une chanson non moins immortelle, hein, Les petits pois. Bon, et elle interprète un grand ballet mimodrame, et là il y a une autre Otero qui fait de la pantomime. Et ça c'est très intéressant, il y a un critique méchant qui dira « au moins elle ne chante pas, mais elle nous montre des étreintes, c'est pour mieux étouffer sa voix ». Bon, alors, donc c'est toujours la notion du spectacle, mais Otero silencieuse, si je puis dire, avec peu de castagnettes, est aussi spectaculaire. Et ce qui est intéressant, c'est quand même une époque incroyable où la demi-mondaine se produit aussi bien dans le lit des monarques, des souverains et de gens peu recommandables que sur scène, que au bois, à l'heure de la promenade, que chez Maxime où les gens sont subjugués. Le fameux caricaturiste Sem dira « Mes cuisses rougissent ». Quand il la voit. Donc, elle déchaînait des réactions absolument extraordinaires et on va la surnommer aussi l'impératrice du geste.
Oui.
Donc, ça, c'est la première fois que quelqu'un, et ça, c'est de la concurrence pour Sarah Bernhardt, a autant de surnoms.
Oui, et parmi les surnoms, il y a celui de sirène des suicidés. Oui. On va y venir dans un instant.
Franck Ferrand.
Les grands portraits.
14h, 15h sur Europe 1.
La danseuse, chanteuse de cabaret, joueuse, la belle Otero est notre grand portrait d'aujourd'hui. Votre invité, Franck Ferrand, l'écrivain, journaliste et historien Jean Descartes.
Alors la sirène des suicidés, on a connu des surnoms plus agréables quand même.
Quand elle se prend de querelle avec quelqu'un qui trouve qu'elle est trop vulgaire, trop spectaculaire, que les hommes se tuent pour elle, elle entre dans des grandes colères et à ce moment-là, elle mérite le surnom de la belle Virago. Bien. Deux anecdotes étonnantes. Qu'on peut dire, le richissime Max Le Baudy, dont la fortune était dans l'industrie sucrière, va lui offrir un soir 100 000 francs pour qu'on la voie seulement à son bras. Et rien d'autre. Quant au roi des Belges...
100 000 francs de l'époque, il faut imaginer ce que c'est. C'est pas 100 000 euros, c'est beaucoup d'argent. C'est encore plus d'argent, dirais-je.
Léopold II, le roi des Belges avec la grande barbe en rectangle blanc, lui donne 20 000 francs or pour passer une nuit. Et quand on lui demande si c'est vrai, elle dit « Oui, et pour ce prix-là, le petit déjeuner est compris. » Donc il y a un tempérament, si vous voulez. Toute sa vie est un spectacle, avec toutes les jalousies, tous les scandales qu'elle provoque. Mais il y a une résistance et une volonté de survivre. Elle, qui vient de la pire origine, pauvre, misérable, que sa mère a traité pratiquement de prostituée, sa mère qui avait quand même 5 enfants, tous de pères différents. C'est effrayant, c'est pas un modèle de vertu. Donc il y a une volonté de s'afficher pour se donner, on dirait, une situation, une position où l'argent joue un très grand rôle. Alors, en précisant tout de suite que cette femme qui était très rapace en matière d'argent a eu des générosités extraordinaires. Elle a fait vivre sa famille qui lui en a voulu, bien entendu. Elle a dépanné, comme nous dirions aujourd'hui, énormément de gens. Et elle est l'une des premières à donner son nom à des marques commerciales de biscuits, d'apéritifs, ce qui lui permet d'envoyer d'ailleurs beaucoup d'argent pour décorer les hôtels des églises de Galice ou d'Andalousie. Enfin, c'est un mélange, un bric-à-brac de bonnes intentions, de vices, d'argent, de talent, mais surtout le caractère d'une femme marquée effectivement par cette enfance épouvantable et le malheur, le double malheur, le viol et l'absence d'enfant qu'il faut bien tenir en tête parce que vraiment, elle a eu du courage jusqu'au bout.
Mais alors revenons, à ce surnom de sirène des suicidés. Est-ce qu'il y a eu dans son sillage autant d'hommes qui se sont donné
On en a diagnostiqué, si j'ose dire, que 6.
Oui, c'est déjà
pas mal. Et d'innombrables duels qu'on a souvent oublié à l'époque où le duel se pratiquait encore. Vanderbilt va se suicider dans la maison qu'il avait achetée pour elle. Il avait tout abandonné. Il était désespéré. Elle rendait les hommes absolument fous avant. Et quand ils avaient possédé cette femme ou passé une nuit avec elle, ils étaient encore plus fous. Alors là, malheureusement, nous n'avons pas la possibilité de vérifier ses talents, mais elle devait avoir aussi un tempérament considérable.
Mais comment peut-on justifier, expliquer une telle fascination? Est-ce que ça n'est pas par la réputation, par l'aura, en quelque sorte?
Bien sûr, mais avoir une aussi mauvaise réputation était la meilleure des publicités. On voulait la voir. Et il paraît que dans les années 50, 48-50, avant la ruine, si j'allais dire définitive, beaucoup de gens venaient, passaient devant sa maison pour voir passer
pour espérer la voir.
Cette femme qui avait eu un succès absolument gigantesque, ramassé des succès formidables.
En 48, elle avait quand même 80 ans.
Mais mais c'est incroyable. Et qui a arrêté sa carrière, on va dire, sa vraie carrière artistique à 44, 45 ans. Dont, par exemple, en 1912, Henri Meillac, le complice d'Offenbach, écrit « Je suis persuadé que cet Otero fera la fortune d'un directeur d'opéra qui lui donnera sa chance ». On pensait que tout était possible pour elle, avec plus ou moins de bonheur, mais dans cette époque où le spectacle est totalement rénové entre 1840 80 et 1914.
Il y a le goût de l'Espagne et du folklore hispanique, hein, en plus, ça fait partie.
C'est l'exotisme dont on pouvait mesurer les traces à ce moment-là. Et surtout, la rénovation du spectacle, de penser que le premier Moulin Rouge était une salle immense avec une toute petite scène. Pas du tout comme aujourd'hui, si vous voulez, mais le cancan déjà était là. Et de penser enfin que toute cette société incroyable se mélangeait d'une façon recevable. C'est-à-dire que nous avions l'aristocratie, les monarques, les mauvais garçons avec les guêpes, Toulouse-Lautrec au milieu, les danseuses du cancan, des financiers, des escrocs. Tout ça se mélangeait. Il y avait les gens de la haute. Et puis les autres, je veux dire, quand la Goulue apostrophait le futur Édouard VII, « Alors, Gall, tu pèles champagne ?» Et que le patron du chat noir disait « Alors, Monseigneur, parce que la reine Victoria vivait toujours, cette maman toujours en bonne santé ?» Enfin, des trucs absolument incroyables. Et Otero avait un sens absolu du spectacle des entrées et des sorties. Et je me permets de dire que sa dernière sortie est très belle.
Merci beaucoup Jean Descartes, et je rappelle le titre de votre dernier livre, Le sceptre et le sang, rois et reines dans la tourmente des deux guerres mondiales. C'est toute l'histoire de ces monarchies d'Europe entraînées dans la tourmente de ces deux guerres. Merci Jean Descartes.
Merci.
Aux origines.
Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, à la question de Clémence qui vous écoute en podcast depuis Mayotte. Quelle chance, elle est agent des finances publiques et elle vous demande de quelles sont les origines de l'impôt en France.
Alors l'impôt, c'est très très vaste, vous imaginez. On m'aurait demandé quelle était l'origine de l'impôt sur le revenu. Ça, j'aurais pu dire, c'est très facile. Ça a été mis en place au moment de la Première Guerre mondiale, en juillet 1914, quelques jours même avant le déclenchement des hostilités. C'était un tout petit impôt sur le revenu d'un pour cent et qui, à l'époque, a fait un scandale considérable. On considérait que c'était du racket, en quelque sorte. Vous imaginez, aujourd'hui, c'est ce que diraient nos ancêtres s'ils voyaient où nous en sommes arrivés. Bon, mais alors l'impôt lui-même, ça, c'est beaucoup plus complexe. Il y avait des impôts dès l'époque romaine, enfin, on dirait nous, gallo-romaine. Au Moyen-Âge, vous avez des impôts directs très célèbres. La taille, d'abord, est essentielle. La taille royale, telle qu'elle est modernisée, si je puis dire, elle est recréée en 1439. Il s'agit de financer la guerre de Cent Ans, à l'époque. La capitation, le vingtième. Alors, le vingtième, ça, c'est un impôt moderne, si je puis dire, qui est proportionnel et qui arrive, comme son nom l'indique, c'est un vingtième, qui s'était d'abord appelé le dixième, d'ailleurs, et il arrive au XVIIIe siècle. Et puis, vous avez tous les impôts indirect, les aides, la gabelle, bien sûr, le célèbre impôt sur le sel, et puis tout ce qu'on appelle les traites, c'est-à-dire des droits de douane, en vérité. Ça, c'est pour les impôts d'État. Mais dites-vous qu'autrefois, il y avait également des impôts d'église, qui étaient très importants, l'impôt ecclésiastique, la dîme notamment, le casuel, etc. C'est des impôts qui pesaient lourd sur la vie, sur la production des gens. Et puis, il y avait des impôts seigneuriaux, taille seigneuriale, corvée, droit de banalité, cens, champart, etc. Vous imaginez un peu. Donc, quand on accumulait tout ça, c'était considérable. L'impôt est dans un premier temps, enfin, si l'on peut dire, oui, mais quand même, réformé par François Ier, en fait, par sa mère, Louise de Savoie. On est dans les années 1530. En 1542, l'édit de Cognac crée les généralités, donc les circonscriptions fiscales, si vous voulez, et c'est la Révolution française qui va moderniser, si je puis dire, l'impôt. Mais vous voyez que entre 1791, date des grandes réformes, et 1914, date de l'impôt sur le revenu, il y a encore un peu de temps. Nous nous retrouvons lundi à 14h au cœur de l'histoire et bien entendu, chère Anne-Sophie, dès samedi.
Et oui, merci Franck Ferrand et à lundi dans quelques instants sur Europe 1. Raphaël Antoven reçoit le philosophe Gilles Verviche pour parler de Star Wars avec cette belle question: quelle est la différence entre la République et l'Empire sur Europe 1?